Voici donc la revue de presse d'Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour. C'était dans le journal Le Monde à la fin du mois d'octobre. Nicolas Hulot, déjà accusé par de nombreuses voix d'avaler des couleuvres régulièrement depuis son arrivée au gouvernement, fixait la ligne rouge à ne pas dépasser, l'annonce ou la loi qui serait de trop, qui lui ferait quitter son poste. C'est l'instant où je me renierai, disait le numéro 2 du gouvernement. En prenant pour exemple sa victoire d'alors, le positionnement de la France sur le glyphosate restait le même face à l'Union européenne avec un prolongement de l'autorisation de l'herbicide pour 3 ans et 3 ans seulement. Ce matin, Nicolas Hulot est en une du JDD, interview du ministre au sujet de la révolution verte et bio qu'il a entreprise dans le monde de l'agriculture. Il est question du glyphosate. Si certains agriculteurs ne sont pas prêts en 3 ans, explique-t-il, on envisagera des exceptions. La ligne rouge devrait être franchie, mais dans cette interview, il n'est nulle part mentionné quelconque reniement ni départ de ses fonctions. Nicolas Hulot n'est pas dans une position défensive, pas plus que dans une position offensive. C'est la pensée positive qui est à l'œuvre ici. Sur les désaccords entre lui et Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, quoi de plus normal, mais nous avançons ensemble. Sur la transition écologique appliquée au monde agricole, la révolution verte est passionnante. Les agriculteurs doivent être fiers de représenter déjà 20% de la production d'énergie renouvelable. La grande mutation est en marche. Elle va redonner de la dignité aux agriculteurs. Vous voilà bien optimiste, constatent les journalistes du JDD qui l'interrogent. Qu'est-ce qui a changé ? Personne ne reste figé, répond Nicolas Hulot. Mais peut-être que la réponse se trouve ailleurs. Le magazine Society se penche cette semaine sur les experts en développement personnel et le coaching collectif, une version moderne et payante de la célèbre méthode Coué sollicitée par de plus en plus de gens en France. Les coachs sont là pour nous rappeler que quel que soit l'écosystème dans lequel on vit, c'est nous qui décidons, explique une adepte qui dépense chaque année 20 000 euros en coaching. Elle qui préfère les séminaires collectifs à l'américaine et qui fustige les Français qui se trouvent toujours des excuses face à un échec. Elle est fan de Tony Robbins, un coach américain, une star du genre depuis les années 80. 200 000 personnes coachées par an, un bienfaiteur qui grâce à cela pèse 500 millions de dollars. Et le magazine de pointer les limites du genre et les excès des séminaires de coaching collectif donnés comme des messes avec un homme seul au micro comme un gourou qui lance des généralités comme « votre vie change au moment où vous prenez une nouvelle décision », mais aussi de la méditation, de la danse, des câlins pour, je cite, « libérer les hormones du bonheur et créer un déclic chez les participants ». Et s'ils n'arrivent pas ce déclic, beaucoup refont un autre séminaire et payent à nouveau une fortune pour un nouveau shoot de dopamine. Mais ce phénomène du coaching ne touche pas que les classes aisées, les plus modestes aussi peuvent y succomber. Il y a plein de livres censés aider à trouver ou retrouver le bonheur, à chasser le mal-être, à réussir sa vie, ou encore à surmonter certains problème. Il existe par exemple, et peut-être que Nicolas l'a lu, Nicolas Hulot, un livre de coaching qui s'intitule « Manager sans se renier ».
Dans la presse de ce dimanche, Adrien, cette vieille affaire criminelle et judiciaire, elle refait l'actualité presque 100 ans après les faits.
Une affaire que tout le monde connaît, ou en tout cas que tout le monde, peu importe les générations, a au moins entendu. On a entendu son nom, l'affaire Seznec, Guillaume Seznec, condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre de son partenaire d'affaires Pierre Kemener. Seznec avait toujours nié les faits, il avait été condamné sans véritable preuve. Le corps de Kemener n'a d'ailleurs jamais été retrouvé et depuis les années 20, Guillaume Seznec puis sa famille n'ont eu de cesse de contester la condamnation et de demander sa révision. Et hier, 95 ans plus tard, l'affaire a peut-être pris une nouvelle tournure. Le Télégramme nous raconte la journée de fouilles organisée à Morlaix sur le terrain de l'ancienne propriété des Seznec. Des bénévoles passionnés par cette histoire non résolue, dont l'avocat de la famille, Denis Langlois. Il y a aussi Jérémy, un féru d'histoire, âgé de 27 ans. Sébastien, 36 ans, qui a découvert l'affaire en y consacrant un exposé quand il était au collège. Ou encore Laurent, 56 ans, qui hier est tombé sur un os. Au sens propre, les autorités sont alors rapidement averties. 15 minutes plus tard, la police arrive sur place. Il faut évacuer, s'il vous plaît, on arrête le chantier. La justice, qui avait refusé à l'époque d'explorer cette piste, prend l'affaire en main. Il s'agirait, selon les premiers constats, d'un morceau de fémur. Des spécialistes devront encore déterminer s'il s'agit là de Pierre Kemener. Une information majeure et très attendue par Denis Seznec, le petit-fils. Toute sa vie, il a défendu son grand-père et l'honneur de sa famille.
Dans la presse de ce dimanche, on termine avec cette histoire inquiétante. Ça concerne le monde de la musique.
La situation des artistes en Espagne. Slate nous raconte la mésaventure qui a touché Josep Miquel Arenas, dit Valtonic, un rappeur originaire de Majorque, condamné par la justice espagnole à 3 ans et demi de prison ferme pour apologie du terrorisme, humiliation aux victimes, calomnie, injures graves à la couronne et menaces. En cause, les paroles de certains morceaux, parfois violents, par exemple des références moqueuses à Carrero Blanco, bras droit de Franco, tué par l'ETA en 1973, ou encore la reprise mot pour mot d'un lapsus de Mariano Rajoy qui date de 2007, « Je veux transmettre aux Espagnols un message d'espoir, ETA est une grande nation ». Pour les défenseurs de la liberté d'expression et des artistes qui le soutiennent, Valtonic est victime d'une loi, la loi organique de protection de la sécurité publique votée en 2015 et plus communément appelée loi Bayon, dénoncée par la Fédération internationale des droits de l'homme car elle cherche à dissuader les citoyens d'exprimer leurs opinions au travers d'actes publics. Là, ce n'est plus de la pensée positive, c'est le stade au-dessus.
C'était la revue de presse d'Adrien Toffolet.